C'est là qu'il faut remonter ses manches et creuser fermement pour trouver de nouveaux îlots de croissance.
Que nous continuons à avoir une croissance comprise entre 1,2, 1,3 et 2,1%. Ou est-ce que nous essayons de libérer le potentiel de croissance de nos entreprises?
Dans le ventre de ma mère, déjà, il me semble que j'entendais ça, j'entendais crise croissance.
S'il est un chiffre auquel tout gouvernant est attaché, peut-être encore plus d'ailleurs que la variation de la courbe du chômage, c'est certainement celui de la croissance, un peu plus forte, un peu plus faible, l'augmentation ou la diminution de la croissance par rapport aux chiffres prévisionnels et de facto la sanction de toute forme d'action politique, puisqu'il faut de la croissance pour relancer l'économie, l'emploi, la demande, l'offre pour faire baisser la dette. Bref, toute forme d'action publique n'aurait pour seul horizon que la croissance, seulement la croissance, toute la croissance. La preuve en est la récente chute du PIB chinois avec une croissance à 6,5% au plus bas depuis près de 10 ans qui entraîne avec elle toute l'économie mondiale. Bonjour Anne-Laure Delatte.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études et de prospectives et d'information internationale. Alors est-ce que la croissance est nécessaire et le tout venant du développement économique?
Alors la croissance économique est en effet un des concepts centraux en économie. Il faut voir l'activité économique comme un gros gâteau qu'on se partage. Donc effectivement, les économistes s'intéressent à la croissance et les politiques s'y intéressent parce que derrière croissance, il y a du revenu, du travail, de l'emploi.
La croissance n'a pas toujours gouverné le développement des sociétés humaines.
Je vais aller regarder les chiffres de croissance de la France. Entre 1200 et 1800, la croissance par habitant en France a été de 30%. 30% en 600 ans. C'est ce qu'on a fait en à peine 10 ans pendant, par exemple, les années 80. Donc en réalité, la croissance, c'est quelque chose qui est extrêmement récent dans l'histoire de l'homme et elle commence avec la révolution industrielle. Avec la révolution industrielle, on va avoir une croissance de l'activité économique, mais donc des revenus. Si vous voulez, en fait, c'est l'activité qu'on va redistribuer sur la population. Donc à partir du moment où le gâteau va grossir plus vite que la population, on va commencer à avoir une croissance de 5-7% par an. Aujourd'hui, un pays développé est autour de 2 ou 3% en fonction de si vous êtes en Europe ou aux États-Unis. Un pays émergent peut être à 6-7% comme la Chine. Le gâteau augmente plus vite que la population et donc le niveau de vie a augmenté de façon absolument extraordinaire depuis la révolution industrielle.
On voit bien aujourd'hui que quand les chiffres de croissance de la Chine sont, je l'ai dit, à 6,5%, c'est-à-dire les chiffres les plus bas depuis 10 ans, ça inquiète tout le monde, ça a un effet sur l'économie mondiale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette croissance économique très forte, très puissante, celle que vous décrivez depuis la révolution industrielle, c'est devenu une drogue un peu des pays développés?
Alors, c'est une drogue pour l'ensemble de l'économie et l'ensemble du monde, je veux dire. C'est pas en particulier pour les pays développés. Voire, c'est une drogue plus forte pour les pays émergents, puisque les pays émergents, ce qu'on appelle les pays émergents, c'est des pays qui partent d'un niveau de développement plus bas. C'est une espèce de drogue, mais c'est une drogue qui permet, encore une fois, d'augmenter le revenu, donc d'augmenter le niveau de vie de la population.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui un consensus sur la façon de calculer le taux de croissance? On sait que, par exemple, en France, depuis peu de temps, on a inclus, et ça peut paraître étrange, les trafics de stupéfiants dans le taux de croissance français. Comment est-ce qu'on explique ça?
Alors, qu'est-ce qui est produit, en fait, dans une économie? On pense en général aux biens industriels, aux services, à l'agriculture. Mais en réalité, là, vous me parlez des stupéfiants. Effectivement, ça génère une économie et ça génère un revenu. Si l'activité des stupéfiants, par exemple en Colombie, l'économie de la drogue est un secteur qui est suffisamment important pour qu'on essaye de comprendre combien ça peut faire dans le PIB colombien pour pas complètement se tromper sur le niveau d'activité de la Colombie. Alors un autre exemple, moi qui me semble intéressant, quand vous êtes dans un embouteillage, en réalité, vous contribuez à l'activité économique du pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous utilisez plus d'essence, vous allez avoir besoin de racheter de l'essence. En rachetant de l'essence, en réalité, vous générez un revenu qui va contribuer au PIB de la France.
Il y a donc beaucoup de critiques de ce dogme de la croissance et notamment des militants écologistes qui militent pour la décroissance en disant on ne peut pas, collectivement, l'humanité ne peut pas continuer à courir après la croissance puisque nous sommes sur une planète finie, qui a des ressources finies, qu'on est en train d'épuiser. Est-ce que la décroissance a du sens en économie?
La décroissance n'est pas un concept économique en soi, c'est plutôt un concept politique. Donc, je pense qu'il faut essayer de comprendre que la décroissance en soi n'est pas souhaitable. Pour deux raisons. La première, c'est que si le gâteau n'augmente pas alors que la population augmente, vous allez avoir une réduction des revenus par habitant à un moment. Et l'autre phénomène, à mon avis, intéressant, c'est que si vous avez de la décroissance, vous allez avoir, par exemple, ce qu'on a observé en Angleterre au 18e, c'est que les propriétaires terriens étaient devenus bien plus riches que les fermiers. En réalité, le revenu des propriétaires terriens avait été multiplié par 6, pendant que les agriculteurs, eux, n'avaient pas vu leur revenu augmenter. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, quand vous utilisez des ressources, si ces ressources deviennent rares et que vous êtes propriétaire des ressources, les ressources deviennent très chères. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut être heureux avec n'importe quel type de croissance. Et je reviens sur l'exemple du fait que quand on est bloqué dans un embouteillage, on crée de la croissance. Un embouteillage et la pollution sont bons pour la croissance. Oui, mais pas pour n'importe quel type de croissance. Ce sur quoi les économistes ont commencé à réfléchir récemment, c'est les différents types de régimes de croissance. Ce qu'on a compris, c'est que depuis la révolution industrielle, premier effet hyper négatif de notre régime de croissance, c'est l'effet sur l'environnement, et en particulier sur les changements climatiques. Le prix Nobel a été donné cette année à Nordhaus, qui s'est intéressé au lien entre croissance et changement climatique. Et aujourd'hui, non seulement on est capable de mesurer les effets de la croissance sur le changement climatique, mais du coup, on est capable de comprendre quel type de politique économique il faudrait mettre en place pour réduire ces effets, les annuler complètement. Le deuxième effet, conséquence extrêmement négative de notre régime de croissance aujourd'hui, c'est les effets sur les inégalités. Vous avez quelqu'un comme Atkinson qui a travaillé sur les inégalités et ensuite les travaux de Thomas Piketty qui ont bouleversé la façon de comprendre croissance et inégalité. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que le système capitaliste, et en particulier basé sur un système financier, a généré une distribution des revenus absolument inégalitaire. Et donc, on se retrouve avec aujourd'hui des niveaux d'inégalité qui sont pratiquement ceux de la fin du 19e siècle. Il faut, là, cette fois-ci encore, changer le régime de croissance. Et comment est-ce qu'on change un régime de croissance pour le rendre plus égalitaire, puisque ça a des effets politiques, hein, en particulier la montée des extrêmes, du populisme. Là, c'est vraiment la fiscalité qui peut avoir un effet. On peut mettre en place une taxe carbone, donc Nordhaus a vraiment montré ça, et c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, peut changer les incitations pour qu'on puisse changer notre façon de produire. Et la fiscalité, une fiscalité qui permette une justice sociale pour répartir des revenus les plus hauts vers les revenus les plus bas, les fruits de la croissance. Voilà la façon dont on peut continuer à faire de la croissance sans avoir des conséquences absolument néfastes à la fois sur la planète et politique.
Que penser d'autres types de baromètres qui cherchent à qualifier ou à quantifier la qualité de vie d'une population? On peut penser à celui du bonheur national brut, de ne pas quantifier justement le développement d'une civilisation à la seule aune d'une croissance économique.
Il est évident que la seule mesure de croissance n'est pas suffisante. On aime parler de cet indice de bonheur, il est probablement intéressant. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, vous avez quand même un lien entre revenu et bonheur. Mais au-delà de cet indice qui, effectivement, marche bien, je crois qu'on va être obligé d'introduire un indice sur les effets de notre croissance sur le changement climatique. Donc moi, ce que je trouverais très intéressant, c'est que quand on discute les chiffres du chômage et les chiffres de la croissance, on devrait aussi discuter notre consommation carbone de l'année dernière. Et le quatrième indicateur, c'est les indicateurs d'inégalité. Aujourd'hui, on en est où sur la différence entre le premier décile et le dernier décile de revenus, entre les plus riches et les plus bas?
Merci beaucoup Anne-Laure Delatte. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe du CEPI, le Centre d'études, de prospective et d'information internationale.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.